Radio Livre Dormir.
Radio Livre Dormir.
Radio Livre ou Dormir.
Retransmission de rencontres littéraires.
Le matin, de 8h
à 10h, le jeudi matin.
Radio Livre ou Dormir.
Retransmission de rencontres littéraires.
92.2
sur Canal Sud.
92.2.
Bonjour tout le monde. Je ne sais pas si vous m'entendez bien. Donc, ce soir, on va accueillir plusieurs personnes autour de cette table ronde sur l'édition en tant que féministe. Il y a Marine Rouge qui va faire la modération de cette rencontre. Les éditions Blast avec Karima et Solène, qui sont une maison d'édition toulousaine, queer et antiraciste, depuis quelques années déjà.
Trois ans.
Et Noémie Grunenwald qui vient de publier un livre qui s'appelle Sur les bouts de la langue, sur les enjeux de la traduction féministe aux éditions de la Contre-Allée. Et juste rajouter une courte phrase, nous en tant que libraires, ça nous semblait vraiment nécessaire de faire cette rencontre parce qu'on est... Bon, le rayon féministe est complètement enterré, mais on est complètement submergé par les nouveautés. Et dans tout type de maison d'édition, mais des maisons d'édition surtout qui, il y a 2 ans, ne faisaient pas du tout ça, voire le contraire. Et donc, on l'a pensé aussi dans ce cadre-là pour notre boulot au quotidien. Voilà. Et merci beaucoup.
Alors, bonsoir à toutes et à tous. Aujourd'hui, on vous l'a dit, on est réunis pour une table ronde autour de la thématique « Éditer et traduire en féministe ». Ça va nous permettre de mettre en avant un certain nombre d'initiatives engagées, hautement politiques, je pense que les invités le diront, qui questionnent et qui même font plus que questionner, puisqu'elles essaient de transformer, elles critiquent un système éditorial qui reproduit plusieurs systèmes de domination, mais ça on en reparlera. Et pour commencer cet entretien, je voulais vous poser une question à toutes les trois. J'ai lu votre la tribune que vous avez signée avec d'autres personnes dans Mediapart qui s'appelle Le féminisme est une affaire d'édition, que j'ai trouvé assez puissante. Et vous y parlez entre autres de ce qu'on a rappelé en introduction, de la mainmise des publications féministes par les grandes maisons d'édition notamment, et vous dites aussi la nécessité développer des outils féministes pour éditer. Et Noémie, tu écris dans ton livre « Traduire en féministe, c'est se réapproprier les textes spoliés au mouvement féministe ». Et je suppose qu'on peut peut-être dire la même chose de l'édition. Donc pour saisir peut-être les enjeux de la thématique qui nous réunit ce soir, est-ce que vous voudriez toutes les trois revenir peut-être sur ce texte et en même temps rappeler peut-être la création de votre maison d'édition et puis toi, puisque tu es membre du collectif Hystérique et Associé, revenir un petit peu sur ça.
Bonsoir déjà et merci de nous accueillir ce soir. La tribune, elle est vraiment née d'un constat qu'on a fait à plusieurs éditrices principalement, qui était vraiment celui de ce que Gabriel a évoqué il y a 5 minutes, l'énorme fond qui est d'un coup proposé en termes de féminisme par des maisons d'édition qui ne le sont pas, tout simplement, voire qui proposaient des livres, effectivement, et qui en proposent toujours des livres qui sont très directement opposés aux valeurs du féminisme et à la lutte féministe. Et donc, elle est née de cette observation qu'on avait entre nous, de se dire, merde, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ces maisons soudainement sont si intéressées par nous? Bon, ça, on a la réponse. Et en quoi, du coup, aujourd'hui, il est encore nécessaire de réfléchir à la façon dont le féminisme est récupéré? Comment le féminisme peut être peut être utilisé comme un espèce d'outil marketing, un outil de vente, et que du coup notre féminisme à nous, il est pensé d'une telle façon qu'il ne peut être détaché, je crois, d'une lutte anticapitaliste et d'une lutte sur du coup tous les voilà les moyens de production d'un texte. Comment on arrive à le produire dans la cohérence, que ce soit en termes de ligne éditoriale, mais aussi en termes de fonctionnement intrinsèque des structures qui accueillent ces textes-là. Donc voilà, c'est né de cette observation de se dire il faut qu'on prenne la parole ensemble et qu'on soit fortes ensemble, parce que en face de nous on a quand même des monstres éditoriaux, c'est-à-dire des grosses maisons qui appartiennent globalement à des groupes éditoriaux qui sont très très diffusés, très largement distribués, et c'est pas notre cas. On a des diffusions et des distributions qui sont beaucoup plus modestes, beaucoup plus pas artisanal, mais pas loin quand même. Et c'est vrai que on n'a pas du tout la force de frappe qu'ont ces maisons d'édition. Et quand parfois en librairie on reproche aux petites maisons d'édition qui travaillent depuis des années, pas forcément notre cas, mais des maisons d'édition qui ont vraiment une histoire féministe depuis vraiment 30, 40 ans, et qu'on leur dit « Ah, mais vous participez à l'engorgement de textes féministes en publiant ce que vous faites comme travail », on se dit il y a quand même un sacré problème si c'est nous qui participons à l'engorgement, alors que ça fait 30 ans qu'on fait ça pour certaines des personnes qui ont signé cette tribune. Donc voilà, il y avait vraiment l'idée de poser la question ensemble et du coup, progressivement, d'accueillir aussi dans cette réflexion, c'est le but aussi pour plus tard, toutes les professionnelles du livre qui sont touchées par ces enjeux, à commencer par les autrices, qui là ne sont pas dans la tribune, mais voilà, toutes les questions matérielles que ça pose, pourquoi elles choisissent de publier dans des grosses maisons, est-ce qu'elles sont au courant des droits qu'elles signent, quels sont les enjeux matériels et qu'est-ce que nous on ne peut pas leur offrir aussi, quelles sont les conséquences pour elles de signer avec des grosses maisons et pas avec nous, et c'était pas pour accuser, c'était pas pour le chapeau et la responsabilité exclusivement aux autrices, c'était plus pour entamer une réflexion voilà collective. Voilà, est-ce que tu veux? Oui.
Juste pour préciser aussi le contexte dans lequel cette tribune a émergé, il y avait Point qui était en train de racheter à ce moment-là des textes auprès de différentes structures indépendantes. Et ça nous a aussi fait poser la question de quel type de féminisme on défend en tant que structure. Donc c'était juste pour apporter ces deux petites informations. C'est d'une importance considérable.
Bon, sur la tribune, moi, j'ai pas grand-chose à ajouter, si ce n'est que j'étais ravie de la signer, du texte qui avait été écrit du coup par vous et par Juliette des éditions du commun, Juliette Rousseau au départ. Après, oui, moi, ce que je peux ajouter, c'est par rapport aux éditions hystériques et associées. À la base, en fait, cette envie de faire une maison d'édition, ça remonte à une dizaine d'années où il y avait pas grand-chose en fait. En édition féministe, il y avait pas, enfin tout ce qui était les modernes et le rayon gay chez Balance, ça existait déjà plus. Après il y avait bon l'Harmattan qui avait une collection, mais voilà c'est l'Harmattan quoi. Et il y avait pas encore, Isabelle Cambourakis avait pas encore lancé la collection Sorcière, et il y avait pas Blast, il y avait pas les petites maisons d'édition indépendantes qui commençaient à s'intéresser au féminisme. Et du coup, il y avait cette, enfin, moi, ça avait commencé à me titiller, sauf qu'à l'époque, j'avais pas du tout de réseau ou de compétences, en fait, pour mener ça à bien. Et ça s'est vraiment créé à partir du projet d'édition de Stonebridge Blues, le roman de Leslie Feinberg, qui au départ avait commencé à être traduit par un collectif de gens, qui avaient pas spécialement de pied dans l'édition ou même dans la traduction en fait. Et entre temps, Leslie Feinberg est décédée et avait organisé la succession des droits d'une certaine manière qui faisait que le livre pouvait pas être édité en fait dans des maisons d'édition capitalistes en fait.
Et du coup, c'est à ce moment-là que moi j'ai rejoint le projet parce que ça a fait une concordance de OK, on a envie de faire l'édition de manière associative, de manière féministe, et c'est l'occasion de lancer la maison d'édition à partir de ces bases-là, qui sont du coup des bases féministes, antiracistes et DIY en fait, de gens qui sont pas forcément des professionnels du livre ou de l'édition mais qui ont envie de s'y mettre et de faire les choses parce qu'en fait personne l'avait fait jusqu'à présent ce livre-là. Et voilà, du coup il y avait un peu l'idée au départ de faire ce que personne voulait faire. Bon, entre-temps, ça a changé un peu le paysage, et y compris dans l'édition indépendante, mais aussi dans l'édition mainstream, avec plein de gens qui veulent faire du féminisme maintenant. Mais à l'époque, il y avait vraiment cette idée de de toute façon, il n'y a jamais personne qui s'intéressera à ces livres. Si on ne le fait pas, nous, ils n'existeront pas, quoi. Il y avait les éditions X qui travaillaient déjà, mais c'était quasi les seuls, en fait, à ce moment-là... Remue-ménage, oui, du coup au Québec, quoi. Mais c'est vrai qu'en France, il y avait pas grand chose, et c'est comme ça qu'on a commencé, quoi.
Merci. Et pour j'ai lu évidemment la présentation. Je suis revenue sur votre site internet, les éditions Blast. Alors, est-ce que vous voulez bien que je lise juste un petit bout de présentation parce que je la trouve très belle. Et pour les personnes qui ne connaîtraient pas, alors Blast, effet de souffle, onde de choc, attaque radicale, et Blast, donc je suppose que c'est le terme en français, ce qui germe, s'enracine, pousse, parasite, grandit, engendre. Les éditions Blast défendent une littérature d'essai et de création politique, une littérature qui pense l'articulation des oppressions et des luttes et qui ouvre des perspectives depuis le champ des résistances antiracistes, féministes, queer, anarchistes. Et donc, je passe sur le reste, mais il y a aussi la fin que je trouve importante. Vous écrivez « Le texte n'existe pas seul. Nous souhaitons inscrire Blast dans une dynamique de renforcement de la solidarité et de l'indépendance au sein du monde du livre. Nous poursuivons par exemple une réflexion sur le montant et la durée des droits des auteurices, comme vous avez dit, et n'envisageons pas un travail sans les librairies, lieu d'émulation et de circulation des livres, comme des idées toujours nécessaires. » Et c'est ce qu'on va essayer de faire ce soir. Une question sur ton travail de traducteur, parce que donc tu prolonges un petit peu ce travail en traduisant des textes. Tu as traduit des grandes figures hein, comme Dorothy Allison, Julia Serrano, Bell Hooks, voilà. Je voulais te demander si tu accepterais de revenir un petit peu sur tes débuts en tant que traductrice, comment tu as commencé à traduire ces textes et pourquoi revenir vraiment sur les petits, vraiment le début.
Moi, j'ai commencé vraiment par le militantisme. J'ai aucune formation en académique ou scolaire en langue ou en traduction ou même en littérature, hein, pas du tout. Et en fait, c'est parce que je vivais, évoluais dans des sphères féministes et j'avais l'impression qu'il y avait des discussions qui avaient cours, principalement sur des questions de race, sur des questions trans, sur des questions butch femme, par exemple. Et où on avait peu de ressources. Et c'était l'époque où il commençait à y avoir des sites internet d'archives en ligne ça s'appelait je sais plus le nom, XAP, je crois, je sais plus ce que ça voulait dire, QZAP. Mais c'était un site d'archives qui regroupait plein de fanzines et de brochures en anglais principalement. Qui avait été édité du coup plus dans les sphères féministes, transpédéguines, squats, anarchistes. Et j'ai commencé à lire ça et à trouver des petits bouts qui m'intéressaient. Je trouvais ça intéressant, enfin ça me stimulait. Et aussi je comprenais pas tout parce que c'était en anglais. Du coup j'ai commencé à me dire ok, ce serait intéressant en fait de mieux comprendre et de traduire ces c'était des interviews, des articles, des choses très courtes. Hein. Et c'est ce que j'ai fait. Au début, c'était juste pour moi, pour mieux comprendre. Et puis après, ça s'est transformé en brochure, en zine, en article sur des blogs ou des choses comme ça. Et c'est vraiment comme ça que j'ai commencé. Et après, il y a eu le texte de Julia Serrano sur lequel j'avais travaillé et que j'avais un peu tapé à la porte de 2-3 maisons d'édition pour voir pour l'éditer, que ça ne les intéressait pas du tout. Après, c'était du copinage féministe, en fait. C'était une amie à moi qui avait repris les éditions Tine Party à Lyon, qui est une petite maison d'édition indépendante. Et du coup, je lui avais dit, ça te dit pas d'éditer les quelques chapitres que j'ai déjà. Et bref, elle a été partante, ses collègues ont été partantes. Du coup, ça s'est fait comme ça. Et ça, c'était le premier livre, on va dire, que je traduisais. Et après, ça a été la rencontre avec Isabelle Cambourakis qui pour moi a vraiment changé les choses. Ou bref, on s'est rencontrés parce que pareil, il y avait une espèce de collectif fantôme qui publiait encore des brochures sur infokiosque.net à ce moment-là. Un collectif fantôme dans le sens où c'est un collectif qui n'existait plus à part pour publier ses brochures. Et c'était Isabelle Cambourakis qui était en train de lancer la collection Sorcière, qui nous avait écrit pour dire « Bon, je vois ce que vous faites, on devrait avoir des choses à se dire. » Vu que, en l'occurrence, les dernières brochures qu'on avait publiées, c'était Dorothy Allison, Bell Hooks et Gloria Anzaldúa. Et c'était les textes sur lesquels elle travaillait à ce moment-là, ou les droits qu'elle était en train de signer à ce moment-là. Et du coup, on a dit « Bah oui, on a sans doute des choses à faire ensemble. » Et du coup, on a fait des choses ensemble. Et voilà, et après, c'est comme ça que moi, j'ai commencé à traduire des livres. Et voilà, ça c'est, au début, j'avais pas vraiment de projet de carrière en traduction, hein, ça s'est vraiment fait au fur et à mesure. Et voilà, maintenant c'est mon métier, mais le départ, c'était ça.
Et du coup, moi, je me demandais, et cette question s'adresse à toutes les trois. Ce sont des choix situés, des choix conscients. Comment on fait le choix de telle autrice à traduire ou de telle autrice à éditer? Est-ce que vous... Je ne sais pas, je me demande vraiment assez naïvement comment on fait le choix, justement. Voilà, cette question du choix.
C'est toujours compliqué, justement, la question du choix. En ce qui concerne Blast, on ne travaille pas et on n'a pas l'intention de le faire à la commande. Donc c'est voilà, on ne demande pas à une personne en particulier d'écrire un texte sur un sujet qui nous intéresserait. On part vraiment de ce qui nous est proposé. On a une certaine conscience du niveau de confiance qu'il faut pour envoyer un texte. Il y en a pour qui c'est peut-être plus facile que pour d'autres, mais globalement, envoyer un texte à une maison d'édition, nous on le prend comme une marque de confiance. Et on est dans une appréciation de ce geste-là à chaque fois. Ça ne veut pas dire que pour autant le texte rentre dans la ligne ou est prêt à être édité. Pour nous, le choix, il se fait pas sur le principe de c'est une autrice, on la publie, c'est un auteur, donc on va pas le publier parce que c'est un homme, ou voilà, ou que c'est un homme cis. Voilà, c'est pas, on va pas essentialiser le texte à son auteur ou à son autrice. De fait, on a publié beaucoup de femmes ou de personnes non binaires ou de, enfin. Pas d'homme cis pour l'instant, mais ça va arriver. C'était pas un choix pour le coup conscient. C'est vraiment juste que ce qui nous arrivait et ce qui parlait à Blast, il se trouvait que ça venait de voix qui étaient minorisées, d'espaces minoritaires en fait, d'espaces de lutte. Et il y avait un vrai sens et un vrai lien à faire entre du coup ce que vivaient ces personnes et ce que nous on avait envie de proposer. Donc, éditer, ouais, c'est quand même prendre une posture. Il y a une posture de pouvoir quand même. Enfin, c'est quand même. Il y a des enjeux de pouvoir. Il y a des enjeux de pouvoir vis-à-vis des auteurs et des autrices. Il y a quand même un endroit où c'est nous qui disons oui ou non. Et c'est quelque chose qu'on mesure vraiment fort et auquel on reste, je crois, assez attentif quand même en général. Tu me coupes si jamais tu veux ajouter quelque chose. Voilà, ce qui compte pour nous dans les textes qu'on publie, c'est que de la même façon qu'on essaye de situer la maison d'édition, c'est que ces textes soient situés, qu'ils soient situés dans leur contexte, dans leur voix, donc quand on parle de position située en termes de féminisme, c'est conscient des enjeux, des privilèges ou des dominations auxquelles on fait face, des oppressions qui sont les nôtres ou auxquelles on est victime ou des privilèges qu'on a, et donc de d'écrire en conscience de ces enjeux-là. Ça ne veut pas dire que c'est forcément autobiographique, que c'est forcément... De fait, il y a beaucoup d'autofiction, mais ça ne veut pas pour autant dire que tous les textes sont autobiographiques. Ça veut juste dire que... Et ça ne veut pas dire qu'on n'a pas le droit de parler de certains sujets qu'on ne vit pas directement, mais encore une fois, il faut le faire avec une grande conscience d'où on est quand on parle d'un sujet, si jamais nous-mêmes on n'en est pas. Et jusqu'ici, c'est assez peu arrivé finalement, parce que les textes sont globalement des textes de personnes qui vivaient ce dont elles parlent. Donc je crois que, voilà, on ne fait pas un tri de ce côté-là, mais la ligne éditoriale le fait d'office. En fait, il se passe quelque chose à cet endroit-là, en tout cas.
Si, il y a peut-être aussi le fait que les oppressions dont on parle et qu'on défend en littérature, enfin les luttes contre ces oppressions qu'on défend en littérature, c'est des luttes auxquelles on peut être nous aussi exposés, pour certaines auxquelles on n'est pas, où on a des privilèges et où on se forme. Mais ça pose malgré tout la question de quel féminisme on défend ou quel antiracisme on défend. Et du coup, effectivement, on parle de féminisme queer. Ça nous arrive de recevoir des textes qui sont pas qui sont féministes, mais qui défendent un féminisme qui ne nous parle pas, parce qu'il nous paraît pas porter en lui suffisamment de réponses aux différentes oppressions, ou ne pas tenir compte d'autres oppressions justement. Donc voilà, c'était juste pour le plaisir.
Oui, non, mais effectivement, et dans ces textes, je crois que l'autre enjeu, c'est quand même, qui demeure, c'est aussi l'enjeu de la représentation, même si c'est pas un enjeu unique, c'est quand même aussi de prendre en compte qui est représenté, comment, par qui. Est-ce qu'on réduit un personnage à une caractéristique, est-ce que du coup on l'appauvrit, est-ce qu'au contraire on fait exister des personnages qui ont peu voix au chapitre généralement, je parle là pour des textes littéraires puisqu'on fait plus de littérature que d'essais, mais voilà, je crois qu'on mêle à la fois la position située, les questions de représentation et la question du fait que effectivement pour nous le féminisme n'existe jamais seul. C'est une lutte qui s'articule forcément avec un certain nombre d'autres postures politiques, et que voilà, c'est quelque chose qu'on défend aussi du coup.
Moi j'avoue, c'est pas aussi réfléchi. Non, moi c'est vrai que j'ai, par rapport à ça, au choix des textes, j'ai une démarche très très individuelle en fait, de quels sont les textes qui moi me parlent et me manquent. Et ça, c'est valable à la fois en traduction et à la fois en édition. Hein. Mais après, je pars du principe que, enfin, je suis une personne comme plein d'autres. Du coup, si ça me manque à moi, c'est que ça doit sans doute manquer à d'autres gens aussi. Et c'est vrai que, bon, en traduction, moi, je fais les deux. Hein, je fais et je propose des textes à des maisons d'édition. Julia Serrano, Dorothy Allison, c'est des initiatives qui viennent de moi au départ. D'autrices qui m'ont marqué à un moment dans ma vie ou qui continuent à me marquer encore aujourd'hui et que j'ai envie de faire circuler, de faire découvrir, de partager. Après, ça m'arrive aussi de recevoir des commandes de plus en plus, vu que maintenant c'est mon métier. Bell Hooks, c'était une commande, Sylvia Federici, c'était une commande, il y en a d'autres qui se préparent. Et après, en édition, je dirais qu'il y a cet enjeu de est-ce que moi ça me parle, parce qu'en fait, Hystérique et Associé, il y a un fonctionnement qui est à la fois collectif et à la fois individuel, dans le sens où il y a que moi dans la structure qui coordonne l'ensemble de la structure. Et après, c'est chaque projet qui est relativement autonome en fait et qui est porté par des gens de leur côté. Du coup, moi, je suis un peu dans tous les projets, mais chaque projet a sa propre vie. Du coup, le deuxième critère, c'est est-ce qu'il y a un collectif suffisant pour porter ce projet ? Et après, des fois, c'est aléatoire. Hein. Stone Mouge-Louse, il y avait 60 personnes. Là, le prochain qu'on va travailler, on est deux. C'est un collectif à deux. Mais voilà, parce que ça, c'est... L'idée, c'est pas de forcer les choses, c'est de faire un peu comme ça vient. Mais c'est vrai que pour le coup, on n'a pas vraiment cet enjeu de, enfin, on n'a pas un enjeu d'aborder tous les sujets qu'on trouverait importants ou tous les sujets qu'on imagine pertinents. C'est vraiment plus de, OK, qu'est-ce qui nous parle à tel moment? C'est-à-dire, c'est de l'édition bénévole sur du temps volé à gauche, à droite. Et du coup, il y a cet enjeu de, OK, est-ce que ce texte-là, je me sens, on se sent pendant un an, deux ans, d'y consacrer nos week-ends et plein de temps comme ça, quoi. Et c'est vrai que, bon, une des difficultés actuellement qu'on a, et enfin, je sais que vous en parliez déjà aussi, de nous, on est on n'arrive pas en fait à lire les manuscrits qu'on reçoit et à fournir des réponses consistantes. Ça, c'est un peu dommage. Mais après, voilà, on verra la suite et il n'y a aucune porte qui est fermée pour plus tard, quoi. Mais c'est vrai que pour l'instant, c'est plus concentré sur des projets qui étaient collectifs et où il y avait une équipe qui pouvait les porter.
Merci. Pour poursuivre un petit peu sur ton travail de traductrice, je vais lire quelques petites lignes de ton livre sur les bouts de la langue. Alors, tu écris, à propos de la traduction, tu écris d'abord s'abandonner, oser se perdre dans ce qu'elle dit, pas besoin de tout comprendre, juste de se laisser porter, se laisser remplir sans trop penser, sans savoir où ça va mener, lâcher prise. Et plus loin, tu écris quand même « S'abandonner, ce n'est pas être passive, c'est solliciter le texte, l'interpeller, le guider aussi parfois, lui révéler ses angles morts, lui raconter les destinations possibles, lui demander de s'expliquer, lui montrer là où il se perd, lui indiquer ce qu'il n'avait pas imaginé, l'inviter à réfléchir encore. » Alors, j'aimerais bien entendre parler de ton rapport à la traduction parce que je trouve que c'est magnifiquement écrit. Et en fait, tu décris l'ambiguïté ou plutôt l'équilibre à trouver entre s'abandonner au texte et en même temps reprendre une sorte de contrôle. Et je trouve que c'est très intéressant. Et je me demandais si tu pouvais parler justement de ça.
Oui, c'est une dynamique qui va dans les deux sens, en fait. Où je sais que moi, pour l'instant, j'ai besoin de traduire des textes qui, voilà ce que je disais avant, qui me parlent, qui me touchent. Je pense pas que je saurais traduire un texte qui m'intéresse pas du tout ou un auteur ou même une autrice qui me parlerait pas du tout ou je sais pas, qui aurait des positions antiféministes ou bref. Et après, pour le coup, cette idée de s'abandonner, pour moi, c'est vraiment lié à OK, comment j'arrive à faire mon métier, c'est-à-dire comment j'arrive à m'imprégner entièrement d'un texte. Hein, des traductions, c'est plusieurs mois sur un même texte toute la journée. Des textes qui peuvent être marrants et des textes qui peuvent être moins marrants. Des fois, c'est les mêmes qui sont des fois marrants et des fois pas marrants. Mais du coup, c'est hyper, c'est une présence très intime et très profonde dans la vie quotidienne, en fait. Et pour moi, il y a un rapport au texte et à la langue qui nécessite effectivement de pas garder le contrôle tout le temps et de se laisser porter par ce qui est dit. Des fois, moi, il y a des bouts, je suis pas sûre de très bien comprendre ce que je suis en train de lire. Du coup, j'ai besoin de me laisser embarquer par le texte, d'y revenir plus tard, d'affiner cette lecture très intime. Et après, la dimension où je parle plus de reprendre le contrôle, c'est assumer en fait une position, une lecture du texte. C'est-à-dire que, traduire un texte, on peut le faire de plein de façons différentes et selon qui traduit, l'époque où on traduit, on n'aura pas la même lecture d'un texte. Et pour moi, il y a cet enjeu de pas chercher à correspondre à cette espèce de mythe dans traduction du traducteur ou de la traductrice invisible qui serait totalement une espèce de filtre transparent qui ne ferait que traduire des mots, prendre des mots dans une langue et les mettre dans une autre. Ça, moi, j'y crois pas trop. Je pense que forcément, on a une lecture qui est marquée par notre histoire, notre vie, notre position. Et du coup, pour moi, cette dimension de reprise de contrôle, elle est à cet endroit-là. C'est d'assumer en fait d'où on parle, de quelle lecture on propose. Un texte féministe, il sera pas traduit de la même façon par une féministe ou par Jean-Michel traducteur, quoi. Et par différentes féministes aussi, et par différents traducteurs aussi, hein. C'est pas, ça se suffit pas comme, comme critère. Mais je dirais qu'il y a cet endroit-là. Et du coup, voilà, venir interroger le texte à des endroits, enfin, genre quand on traduit de l'anglais au français, il y a toute cette question des adjectifs, des noms, des parties passées qui sont pas genrées grammaticalement. En anglais, après ils peuvent être connotés hein, quand même, mais en tout cas grammaticalement ils sont pas genrés, en français ils le sont, donc qu'est-ce qu'on fait de ça, comment on le traduit, est-ce qu'on traduit au masculin générique, est-ce qu'on traduit avec des points médians, est-ce qu'on traduit avec des épicènes, est-ce qu'on fait un peu de tout ça en même temps, et puis on voit ce que ça donne, et là-dessus pour moi il y a une dimension de proposition en fait, en traduction. Où on peut faire des choix très différents qui vont amener le texte à avoir non seulement une forme différente, mais aussi un public différent.
Et du coup, ce travail-là, ça permet de pointer du doigt la violence qu'il y a dans la traduction. Tu en parles dans ton livre. Ça, donc, en fait, même vous, vous invitez à mettre de côté en fait les discours selon lesquels donc, le processus de traduction et d'édition, c'est quelque chose qui est neutre et objectif. En fait, vous partez du principe que ça n'est pas possible. Et dans ton livre, tu rappelles aussi qu'il faut rappeler qu'il y a une violence inhérente à ce processus-là. Et je me demandais, est-ce que vous pouvez toutes les trois expliquer bon, déjà d'où vient cette violence pour essayer de mettre en contexte et en quoi une pratique féministe peut aider à ne pas la reproduire ou en tout cas la limiter, tant dans la traduction que dans l'édition.
En traduction, pour le coup, là, c'est vraiment c'est Tiffaine Samoyo qui a publié un livre l'an dernier qui s'appelle Traduction et violence, qui parle beaucoup de ça. Et en fait, je pense que, enfin, après, je vais pas parler pour elle, mais en tout cas pour moi. Ça a beaucoup résonné parce que il y a en traduction en général dans le milieu de la traduction littéraire, il y a cette espèce d'idée que la traduction ça permettrait forcément un dialogue entre les peuples, entre les cultures et que ce serait intrinsèquement quelque chose de merveilleux et de magique. Il y a des gens qui ont étudié la question et qui se sont rendus compte que c'était pas forcément le cas. Il y a Gayatri Spivak qui a travaillé sur la traduction, qui a démontré que notamment les traductrices ou éditrices féministes états-uniennes, quand elles traduisaient des textes notamment de femmes indiennes, elles avaient tendance à toutes les considérer pareilles. Parce que au moment de passer à l'édition en anglais, il y avait une uniformisation et un lissage des voix des textes de départ qui pouvaient être très différents, quoi. Enfin, je sais pas, c'est un peu comme si on disait, ok, on traduit Caroline Fourest et Fatima Ouassak en même temps dans une même anthologie et qu'on les fait parler pareil, bah, ce serait pas forcément pertinent. Il y a Tejaswini Niranjana qui a aussi travaillé sur la violence coloniale de la traduction, où elle explique que en Inde, au moment de l'occupation britannique, il y a eu tout un travail de traduction de la culture en fait littéraire indienne en anglais. Et qu'en fait, ce travail-là, il a contribué à l'éloignement de cette culture-là des gens qui la faisaient au départ et à une uniformisation aussi et du coup moi je trouvais ça très intéressant et Tiffaine Samoyo elle revient aussi sur cette idée de langue mondiale qu'elle emprunte à Pascal Casanova en fait c'est pas la même chose de traduire un texte depuis l'anglais vers le français depuis en général des langues dominantes entre langues dominantes ou entre d'une langue dominante à une langue minorisée et du coup on peut pas avoir les mêmes approches de la traduction selon qui on traduit à quel moment dans quel contexte et vers quelle langue. Et ça c'est quelque chose que moi je trouve très intéressant et qui vient contredire un peu les théories trop générales en fait autour de la traduction, y compris cette idée que c'est forcément quelque chose de merveilleux et de magique qui fait dialoguer les gens à travers toute la planète. Et que voilà, quand on traduit vers le français, bah, on traduit vers une langue dominante qui a été la langue mondiale pendant au moins 2 voire 3 siècles. Quand on traduit vers l'anglais, il y a tous ces enjeux, notamment aux États-Unis. La plupart des textes traduits aux États-Unis, en fait, ils sont pas présentés comme des traductions. Parce qu'il y a cette idée que, forcément, si c'est une traduction, c'est mauvais, le texte, il a été abîmé, et du coup, même les traductions... Alors, il y a un pourcentage assez ridicule hein, de traductions qui paraissent en anglais aux États-Unis. C'est de l'ordre de 2 ou 3%, en tout cas, c'est moins de 5%, quoi. Et il y a toute cette idée que, bah, de toute façon, si on parle anglais, on a besoin de traduire, quoi. Tout le monde parle anglais, c'est une langue mondiale, du coup, tout le monde s'y adapte. Il y a... C'est Kaoutar Archi qui a travaillé aussi sur les écrivains algériens, notamment, qui écrivaient en français pour pouvoir être lus, pour pouvoir être reçus. Et du coup, avec toute cette idée que le français, ça reste, même si maintenant c'est plus la langue dominante par-dessus tout, ça reste la langue de l'amour et des arts et des lettres qui serait forcément magnifique, là. On a eu d'ailleurs, je crois, une sortie récente... de je sais plus qui disait que c'était la langue la plus magique et la plus merveilleuse d'un politicien, je sais plus qui. Qu'elle était forcément belle, quoi. Et je dirais que voilà, une approche féministe et aussi décoloniale... Oui, une approche, pardon, féministe et décoloniale de la traduction, c'est aussi prendre ça en compte et voir que, bah oui, peut-être que si on traduit... un texte depuis l'anglais, ben on va se permettre plus d'adapter le texte à la langue cible, parce que il y a cet enjeu de pas forcément imposer des catégories de pensée à une échelle mondiale qui sont pensées quand même depuis une langue dominante. Et à l'inverse, si on traduit une langue minoritaire en anglais ou même en français, d'avoir plus cette culture de l'étrangéification du texte et de venir perturber en fait la langue cible.
Du côté de l'édition, ça se formule un peu différemment, effectivement. Peut-être je vais être un petit peu schématique. On est sur 2 volets, principalement le volet de la création, ou tous les textes de fiction, et le volet, pour l'instant, des achats de droits. Et là, ça concerne plus les essais, qu'on défend un peu moins, effectivement. Au niveau de la création, dans l'édition, il y a cet enjeu dont parlait tout à l'heure Solène, de ne pas faire de commandes, c'est-à-dire d'essayer de rester, ou en tout cas de re-réfléchir à cette posture d'éditrice, c'est-à-dire d'accompagner un texte à sa publication, et des personnes qui écrivent et qui ne sont pas forcément connues dans un milieu, comme nous d'ailleurs. Donc on pense vraiment à cet accès ensemble, c'est-à-dire on va essayer d'accéder ensemble, nous en tant qu'éditrice, toi en tant qu'autrice, pour accompagner ce texte et essayer de faire en sorte qu'il existe dans le paysage livresque. Donc ça, déjà, réfléchir à cette posture, ça nous paraît être une des manières d'essayer de contrer la violence que peut contenir ce milieu de l'édition, et qui concerne surtout une des postures de pouvoir. Il y a aussi des enjeux, par exemple le dernier texte, l'avant-dernier texte qu'on a publié, donc de Soie de la Bise, a été publié en partenariat avec les éditions Barzac, et c'est essayer d'avoir des postures comme refuser de leur faire payer des droits pour un texte qui a une histoire, qui s'inscrit aussi dans le quotidien de personnes algériennes justement, et qui a la possibilité d'exister pour des personnes sans que nous ne pratiquions d'ingérence. Et du coup, d'essayer d'avoir des postures réfléchies comme ça sur le travail qu'on peut avoir avec les différents interlocuteurs et interlocutrices, en disant, bah, nous, ce qui nous intéresse, c'est que ce texte puisse être lu ici, mais qu'il puisse aussi être lu à d'autres, sans qu'on intervienne, sans qu'on ne cherche à occuper une posture de pouvoir ou capitaliste.
Non, je crois qu'il y a, je pense pas qu'on puisse comparer la violence de l'acte d'éditer avec la violence de la traduction. Je crois que la violence symbolique que contient l'acte de traduction est assez différente. Il se passe vraiment quelque chose, effectivement, et on le sent dans la façon dont sont parfois jugées les traductions, effectivement, comme texte abîmé, texte, on n'est plus à la source du texte. Mais je crois que, voilà, effectivement, ce que dit Karima, c'est toujours réfléchir dans l'édition à nos postures. Et ne jamais oublier qu'un texte, même publié, c'est une étape. C'est une étape qui s'est arrêtée à un moment donné, ça aurait pu continuer. Nous, notre travail aussi, c'est de savoir quand s'arrêter, quand est-ce que on en a suffisamment demandé, d'une certaine façon aussi, à l'auteur ou à l'autrice, quand est-ce que là on pousse trop, et voilà, et je crois qu'une travailler toujours dans un dialogue vraiment suffisamment poussé avec les auteurs et les autrices pour que ces derniers et ces dernières restent pleinement acteurs de leur publication, en fait. C'est-à-dire que ne pas leur faire porter le travail de l'édition, ne pas leur faire porter tout un tas d'éléments qui sont purement éditoriaux, mais par contre faire en sorte qu'ils aient le maximum d'outils et le maximum d'informations possibles pour pas que... Bah pour qu'ils restent dépositaires en fait de cet acte d'éditer, pour qu'ils en restent le centre. Donc ça va effectivement de l'accompagnement éditorial sur comment autour du texte on travaille ce texte là à le contrat. Ça nous semble super important de bien avoir en tête que quand on est face au contrat, est-ce que tu sais ce que tu signes? Est-ce que tu l'as compris? Si tu l'as pas compris, et voilà, on parle de contrat, c'est un langage extrêmement juridique, extrêmement policé. Pour nous, ça va être quasiment à chaque fois de prendre un temps d'explication pour dire voilà, ça veut dire ça, ça veut dire ça, ça signifie ça, voilà les enjeux de ça, voilà ce que, là c'est ça, et on signe seulement si les choses sont claires, elles peuvent être négociées, mais en tout cas si elles ont été expliquées. Et du coup, je pense qu'à chaque petite étape comme ça, on essaye de désamorcer le pouvoir qui est devenu le nôtre, en fait, qui est devenu le nôtre, pareil, le soir et le week-end, mais qui est quand même le nôtre, qui est dans l'acte d'éditer, de le désamorcer au maximum.
Merci beaucoup. J'ai encore plein de questions, mais il est l'heure d'accueillir vos questions. Donc si vous en avez... N'hésitez pas. Oui.
Pardon. Donc moi j'aurais une question particulièrement pour la traduction de Stephen Berg que j'ai adoré. Enfin j'ai trouvé que c'était vraiment un texte magnifique et c'est très rare. Enfin moi c'était le premier texte en tant que personne trans que je lisais d'une personne trans, donc ça a été vraiment une expérience magnifique, vraiment vraiment très très belle. Donc merci pour ça. J'avais deux questions au-delà de ça, une très précise sur ce texte justement. J'ai pas mal d'amis qui l'ont lu, enfin qui ont commencé à lire et qui ont été, qui ont arrêté leur lecture, notamment à cause des scènes de violence qui ont lieu au début du livre. Je me suis demandé si vous aviez réfléchi à un moment donné à mettre des triggers, parce que bon, dans la lecture, parfois on est lancé dans un livre, quoi. Donc on continue notre lecture et parfois on lit des scènes de violence. Et on en sort, ça peut être assez difficile. Donc voilà, c'est une question que je posais parce que je trouve que c'est intéressant. Enfin, je trouve que le fait de prendre soin des lectrices, que ce soit sur Insta ou que ce soit dans un livre, je trouve ça assez beau. Donc je me demandais si c'était une sorte de transposition possible. Et ensuite, du coup, tout à l'heure, vous avez parlé un peu de la violence dans l'acte de traduction. Et je me demandais si, du coup, quand vous traduisiez... vous pensiez à genre, intégrer des personnes trans dans la traduction ou des personnes racisées, si ça concerne des textes de personnes racisées. Si ça pouvait être une chose qui permettait peut-être de gérer un peu mieux cette violence possible.
Alors, moi, j'ai fait très très peu de traductions pour ce livre-là. Je suis vraiment intervenue dans l'édition. Du coup, c'est à prendre avec des pincettes ce que je vais dire dessus. Hein. Pour le coup, il y avait quand même des... Moi, quand j'ai rejoint le projet, ça faisait déjà au moins 4 ou 5 ans, 4 ans, qu'il y avait des gens qui commençaient à travailler dessus et qui faisaient de la traduction à proprement parler. Voilà, moi, je suis plus intervenue sur le processus éditorial, dans l'harmonisation, parce qu'il y a quand même une douzaine de personnes qui ont traduit ce texte, dont la plupart n'étaient pas des traducteurs ou traductrices de métier ou de formation ou quoi. Mais voilà, donc c'est à prendre avec des pincettes. Je sais qu'au moment où nous, j'étais dans le projet, on a pas spécialement discuté de cette question des triggers, notamment parce que les conditions de traduction et de publication de ce texte en français étaient très claires, c'est-à-dire qu'il fallait que ce soit une édition à l'identique. Alors Leslie Feinberg a un petit encadré au début du livre qui dit ce texte contient des scènes de violence qui ne sont ni gratuites ni voyeuristes. Alors ça, je pense que c'est lié au fait que il y a eu notamment pas mal de producteurs de films qui aux États-Unis qui ont essayé de racheter des droits pour faire des versions films de Stone Butch Blues. Et Leslie Feinberg a découvert en fait qu'il y avait un de ces projets-là. Le producteur vendait en gros son projet comme étant un film qui contient des scènes de viol de Butch. Du coup, je pense que ça l'avait un peu calmé sur le côté la possible réutilisation voyeuriste de ces scènes. Mais du coup, voilà, nous on était tenus. Pour le coup, quand bien même en fait on avait voulu faire autre chose, on n'aurait pas pu. On était tenus de reproduire cette édition vraiment à l'identique. La seule marge de manœuvre qu'on avait, c'était les notes de bas de page, qui sont assez conséquentes d'ailleurs. On a utilisé notre marge de manœuvre au max. Donc voilà, cette question-là, elle était réglée un peu dans l'œuf. Après, ça ne veut pas dire que même nous, quand on travaillait sur le texte, c'était pas forcément un truc hyper agréable hein, de passer sa journée à relire 15 fois des scènes de violences policières, de viols. Ça laisse des marques sur comment on sent le soir, quoi. Donc sur cette question, ouais, je peux pas dire beaucoup plus que ça. Et après, l'autre question sur la traduction. Pour l'instant, enfin en tout cas dans Stone Butch Blues, le collectif, il y a pas mal de personnes trans qui se sont saisies de ce projet et qui ont été à l'origine du projet. Donc je pense que ça a contribué à la forme qu'il a à publication, quoi. Après, de manière plus générale. Moi, je trouve que c'est une question qui est toujours délicate parce que il y a ce, d'un côté, il y a cette espèce d'idée de la traduction là qu'on a beaucoup entendu d'ailleurs dans les tribunes de tous les traducteurs qui se sont offusqués suite à la polémique qu'il y a eu sur la traduction du poème d'Amanda Gorman notamment. Donc il y a toute cette espèce de dogme qui dit que un traducteur, surtout un traducteur d'ailleurs, peut tout traduire n'importe quoi, que chaque personne est suffisamment compétente pour faire tout et n'importe quel texte. Et à côté de ça, je pense que moi personnellement et même dans les quelques discussions qu'on a pu avoir avec différentes personnes, avec Hystérica associée, il y a aussi cet enjeu de pas forcément essentialiser un texte à son autrice et du coup de trouver une espèce d'équilibre de ok, bon, certes, tout le monde peut tout traduire sans doute, hein, est-ce que c'est pertinent pour autant ? Pas forcément en fait, juste des personnes trans ou racisées qui ont besoin qui ont envie de traduire, qui ont besoin de le faire et qui peuvent le faire très bien, il y en a plein. Du coup, autant commencer par leur donner du travail. Bon, là, je parle pas tellement pour Hystérica associée parce qu'on donne pas du travail à grand monde, mais en général dans l'édition, autant donner du travail à ces personnes-là. Surtout que par ailleurs, ces personnes-là, elles vont pas traduire en fait. Enfin, on va pas leur proposer les autres textes. Du coup, c'est toujours ce déséquilibre de qui a accès de manière générale aux opportunités. Et voilà. Et après, oui, sans doute que, enfin, moi, je suis intimement convaincue plutôt que oui, quand on est touché par un texte, quand on connaît le parcours de l'auteur ou de l'autrice, quand ça nous parle intimement, on va produire une traduction d'une meilleure qualité. Après, c'est toujours difficile d'identifier c'est quoi les critères. Moi, je pense que ce serait pas pertinent non plus de réessentialiser les personnes en disant qu'une personne trans, forcément, elle va avoir un regard ultra pertinent sur le texte d'une autre personne trans ou une personne noire sur le texte d'une autre personne noire, parce que ça reste quand même un critère, alors qui certes est majeur dans la vie des gens, mais qui est pas le seul en fait. Enfin. Toute la question là autour d'Amanda Gorman, il y avait aussi cette idée que ben voilà, c'est une poétesse qui a une façon de travailler les mots qui est très particulière. Du coup, c'est pas juste une traductrice noire en fait qui serait pertinente, c'est une traductrice noire qui connaît cette pratique des mots, cette pratique de la poésie qui peut produire une traduction de qualité. Et je pense que c'est important de pas retomber dans une espèce de démarche caution où sous prétexte qu'on a choisi une personne qui partage une catégorie sociale avec l'autrice ou l'auteur, ce serait forcément quelque chose de magique qui se passerait, parce que bah, les gens ont plein de parcours hyper différents au-delà des catégories auxquelles ils sont assignés. Donc voilà, moi je trouve que c'est intéressant d'apporter un peu de nuance sur cette question-là, en tout cas en ce qui relève de la traduction. Je ne sais pas si ça répond à la question.
Si, je suis pas entièrement d'accord, mais si, ça répond à la question. Ouais. Ouais. Et pour les triggers, non, mais c'est, en fait, je sais même pas si ça existe dans la littérature de mettre des triggers. Mais je, par exemple, je me dis qu'une note de bas de page avec un 1, une scène violente va suivre, ça pourrait être suffisant. Enfin voilà, c'est juste des questions parce que vraiment, je n'ai aucune idée, donc c'est vraiment comme ça. Et oui, bon, pour le reste, on va pas. Ce serait un très long débat. Je vais pas lancer là-dedans. Mais...
D'autres questions peut-être?
Moi j'aurais une question assez spécifique vis-à-vis de la réédition de Manifeste d'une femme trans, enfin la nouvelle édition. Et je voulais savoir un peu plus les choix qui ont été faits vis-à-vis de la traduction, parce que notamment tout n'a pas été traduit. Et voilà, donc ça m'aurait intéressé d'en savoir plus sur ce.
Tout le livre? Oui. Tout n'a pas été traduit au départ parce qu'il n'y avait aucune maison d'édition intéressée. Du coup, ça, c'est ce que je disais tout à l'heure, ça s'est vraiment fait avec... moi, j'avais traduit quelques chapitres au début dans mon coin qui me parlaient particulièrement. Et il n'y avait aucune maison d'édition qui était intéressée. Du coup, je m'étais tournée vers les camarades de Time Party pour publier ce que j'avais déjà traduit. Qui ont été ok. Bon, ça n'a pas été simple hein, parce que c'est un peu le problème aussi dans l'édition indépendante, notamment sur les questions féministes ou transpédéguines, LGBT, queer. C'est qu'on a quand même pas mal de maisons d'édition indépendantes d'un côté en France qui s'intéressent à des textes qui, aux États-Unis notamment, quand c'est en anglais et que ça vient des États-Unis, sont dans des maisons d'édition énormes. Ou représentés par des agences qui gèrent les droits de 50 maisons d'édition différentes et tout. Du coup, il y a une espèce de déséquilibre là, des pouvoirs qui est très très marqué. Et donc, il y a une marge de manœuvre qui est assez limitée pour les maisons d'édition indépendantes en France pour négocier les droits, en fait. Et par exemple, je sais que... Alors, je me souviens plus des détails précis, mais je sais que chez Time Party, à l'époque, ce qui avait été autorisé, c'était une traduction partielle à tirage limité et non exclusive. C'est-à-dire, du coup, non exclusif, ça veut dire que si quelqu'un d'autre décidait d'acheter les droits du texte un mois plus tard, que je sais pas, Gallimard décide d'acheter les droits de ce texte, pouvait le faire. Du coup, il y avait eu tout cet enjeu de négociation à ce moment-là. Et après, la réédition, c'était vraiment, justement, à cause de ces conditions-là, Time Party n'était pas censé réimprimer, en fait, le livre, vu que c'était un tirage limité au départ. Et du coup, moi, j'en avais parlé à Isabelle sur « Ok, est-ce qu'on essaye de donner une seconde vie à ce texte ?» Et elle était partante. On a retraduit deux chapitres en plus. Et en fait, ça, on n'en a pas discuté plus que ça de la possibilité de faire une traduction complète. Je pense que moi, déjà, parce que j'étais plus forcément là. Enfin, je trouvais ça dommage que ce texte il disparaisse et qu'il soit plus disponible. Mais j'avais pas forcément ni le temps ni les moyens de proposer une traduction complète, ni vraiment l'envie en fait. Je travaillais sur d'autres choses quoi. Et Isabelle a pas vraiment soulevé la possibilité de le faire non plus. Donc l'idée c'était de refaire en fait le même livre qui est Manifeste d'une femme trans et pas Weeping Girl au départ. C'est quand même le livre il est, je sais pas, il doit y avoir un tiers qui est traduit, je dirais un gros tiers je pense par rapport au livre de départ. Et voilà, on n'en a juste pas spécialement rediscuté. Quoi. L'idée, c'est de faire une deuxième édition de l'édition française et pas de proposer une édition française de l'édition originale. Et après, c'est assez courant hein, en édition et en traduction, ce genre de pratique. J'ai que la première édition de Pau de Dorothy Allison, il y avait 7 chapitres du recueil de départ qui n'avaient pas été traduits à l'époque par Balan. Alors, on peut interroger les motivations dans le choix des chapitres au départ. mais le principe même qu'il y ait des morceaux choisis qui soient publiés et pas des œuvres intégrales, c'est très courant, notamment dans des projets éditoriaux qui peuvent paraître risqués au moment où ils sont lancés. Parce que, bah oui, alors c'est sûr que Manifeste d'une femme trans de Julia Serrano, quand on en parle aujourd'hui, c'est un texte, voilà, qui a marqué un peu, qui a pas mal circulé et tout, mais au départ, en fait, tout le monde s'en fichait de ce texte. Du coup, il y a quand même un enjeu de, bah, est-ce qu'on va prendre un risque éditorial à publier un texte long, qui potentiellement pourrait coûter cher en traduction, en impression et tout, ou est-ce qu'on fait un premier coup pour voir ce que ça donne et après voir la vie que va avoir le texte. Et pour Pau, j'imagine, c'était pareil. C'était un des deux premiers textes qui a été publié dans la collection du Rayon Gay chez Ballant. Et après, voilà, moi, j'ai pas connu l'équipe à ce moment-là, mais les échos que j'ai eus, les informations que j'ai réussi à glaner, c'est que, bah, pareil, c'était vraiment un parti pris éditorial de prendre le risque de publier ce texte-là, que les gens qui ont travaillé dessus étaient pas spécialement salariés ou même bien rémunérés, que c'était un projet militant, et que du coup, bah, il y a des éditions qui sortent, qui sont épurées. Tout comme il y a des autrices qui sont publiées qu'en anthologie, par exemple, en français, et qu'il faut 10 ou 15 ans de plus avant que leurs œuvres complètes, ou en tout cas, qu'au moins une œuvre complète soit publiée, quoi. Donc c'est assez courant, en fait. Je sais pas si ça répond à la question. Il y a deux chapitres en plus dans la nouvelle édition, c'est tout. Enfin, pas les plus courts, d'ailleurs. Il y a effectivement un gros chapitre, quoi, en plus. Enfin, il y a deux chapitres en plus, dont un qui est très gros. Et oui, il y a un choix de, ok, qu'est-ce qui, au moment où la première édition a été publiée, nous semblait le plus urgent, pertinent, intéressant à amener dans la discussion en France. Et sur la deuxième édition, c'était un peu pareil, hein, c'était un choix de qu'est-ce que nous on pense qui est le plus urgent et qui vaut le plus le coup à traduire avec nos critères à nous. C'est comme on disait tout à l'heure, quoi. C'est une proposition à un moment donné, dans un contexte donné, par des personnes précises. Ça veut pas dire que c'était forcément les choix objectivement les plus pertinents, hein. C'est juste une proposition.
Moi, j'ai beaucoup aimé, j'ai aimé tout le livre évidemment, mais le passage où tu parles d'héritage, en fait. Des générations passées. C'est vrai que je pense au MLF où il y avait une tradition de traduction et d'édition féministe, et j'avais une question pour toutes les trois. Comment se passe ce dialogue des générations? Je sais que dans certains cas il est un peu compliqué, et j'étais curieuse de savoir déjà s'il y avait un lien et un dialogue qui se faisait, et comment on faisait justement avec cet héritage. Est-ce qu'on s'inscrit dans le prolongement? Est-ce que j'étais curieuse de ça.
Déjà il y a la reconnaissance de ce qui a déjà existé, je crois, qui existe dans la façon dont on travaille aujourd'hui. Il y a tu m'interromps si jamais tu veux. Il y a la conscience de tout ça et la reconnaissance de ce qui a existé, et de pas s'inventer son propre petit miracle en se disant je vais révolutionner quelque chose, alors qu'en fait il y a eu déjà un paquet de choses qui ont existé, qui parfois sont tombées dans l'oubli, et où on a l'impression qu'il y a peu de choses, mais en fait il y a dans les petits réseaux, ça passe par en dessous, il y a énormément de choses qui existent, et je crois que le dialogue, il y a une partie du dialogue qui se situe là, dans cette reconnaissance là. Après, factuellement, je peux pas dire qu'on soit dans un dialogue particulièrement avec la partie héritage. On est dans un dialogue plus général, en fait, avec les éditrices et les éditeurs féministes, engagés, anarchistes. C'est un truc plus global, et je dirais peut-être du coup on est peut-être plus en dialogue avec des personnes qui sont aussi en activité aujourd'hui, qui ont un engagement aujourd'hui qu'on partage. Donc c'est vrai que c'est pas un dialogue qui repose sur une pyramide des âges, en tout cas. C'est pas un truc où on vient chercher de l'information parce que dans les années 70 il s'est passé ci ou ça, et qu'on est plus sur un truc où on est en train de mettre en commun nos expériences de l'édition, nos expériences de, de l'accompagnement, de la traduction, enfin voilà, toutes les expériences qui font le livre. Et voilà, et je pense qu'on a eu, des discussions avec le groupe des jazzeuses, justement, sur la réédition d'un texte des années 70. Finalement, ça s'est pas fait. Mais voilà, on a eu d'assez longues discussions avec donc, ce groupe qui travaillait sur une autrice des années 70 et qui cherchait à la rééditer. Et je crois que le dialogue, il se situe aussi dans ces interstices-là, en fait. Même si les projets ne naissent pas toujours, il y a dans ces interstices des endroits où on vient agir, on vient se mettre en commun. Et ouais, je pense qu'il y a, c'est surtout une mise en commun parce qu'on est aujourd'hui, parce qu'on défend aujourd'hui, qui va se faire. Après, est-ce que parfois c'est un peu compliqué? Je pense que c'est pas vraiment compliqué. Je pense que, en tout cas, nous, on s'est jamais retrouvé dans une situation où ça l'était. Peut-être aussi parce qu'on fait le choix de ne pas faire naître ce dialogue-là, ou en tout cas, on n'est pas du tout opposé à l'idée du débat, mais on. Oui, on n'a jamais été confronté sur une façon de défendre un féminisme qui serait peut-être pas exactement le même que la voisine ou le voisin. Enfin, c'est quelque chose qui n'est pas arrivé. Et je pense qu'après, faut pas qu'on oublie que on. Alors, il y a des questions politiques fondamentales sur lesquelles les féministes sont opposées parfois, qui sont vraiment des questions qui du coup divisent. Très profondément le féminisme, mais il ne faut pas qu'on oublie aussi qu'on a quand même beaucoup en commun et qu'il y a plein de luttes sur lesquelles en fait on est fortes ensemble, et ça ne veut pas dire que j'ai envie de m'allier avec n'importe qui, mais par contre qu'on n'oublie pas quand même qu'on a énormément de choses à faire ensemble aussi. Et je pense que c'était d'ailleurs le principe de la tribune. Je reviens sur la boucle du début. Et là, l'idée aujourd'hui de faire la suite de cette tribune, c'est de créer un collectif d'édition féministe. Donc c'est toujours très compliqué à monter parce qu'on est toutes prises par nos engagements variés et multiples, et que justement, la plupart d'entre nous bossons sur les temps qu'on appelle off, donc le soir et le week-end. Mais du coup, le dialogue, enfin, en tout cas, il y a une vraie envie, on sent une vraie envie chez la plupart d'entre nous de dialogue et de créer un espace dans lequel on puisse échanger sur ces questions-là. Donc, dans l'édition, je crois que ça existe encore.
Non, peut-être juste ajouter, mais vraiment pour le plaisir. Tout est une histoire de plaisir. Ça dépend aussi de quel type d'héritage est-ce qu'on a. Pour ma part, j'ai la chance de connaître aussi le catalogue, par exemple, de la littérature féministe algérienne du XXe siècle. Et sur les projets futurs qu'on a, il y a aussi l'envie de porter des textes qui sont vraiment des textes de référence, mais qui ne le sont pas ici. Et peut-être aussi ça peut faire aussi partie d'un dialogue. Donc c'était juste pour un peu préciser, ça dépend vraiment de quel... voilà.
Moi, je pense que moi, je vois ça comme pas forcément comme un dialogue, mais cette question de l'héritage, pour moi, il y a vraiment un héritage de pratique très concrète, en fait. Ou l'édition ou la traduction en collectif avec des gens qui sont pas forcément dont c'est pas forcément le métier, c'est des pratiques historiques des mouvements féministes, en fait, et du coup j'ai l'impression que c'est ce qui est reproduit là, sans forcément de dialogue hyper précis, mais en tout cas il y a une imprégnation qui est présente tout le temps. Moi, je sais que dans mes pratiques de traduction, c'est aussi très présent, ou des fois sur des questions très concrètes, hein, de comment tel terme on va l'écrire ou quoi. Je m'inspire de brochures ou de textes qui ont été publiés dans les années 70 ou moins, qui abordaient déjà ces questions-là, alors avec différentes cultures, mais en tout cas avec quand même ces enjeux de au moins la place des femmes dans la langue, on va dire. Et voilà, et moi, c'est des fois je m'amuse à exhumer certaines pratiques ou à voir qu'est-ce qui a subsisté, qu'est-ce qui n'a pas subsisté. Et après, oui, moi, je dirais que c'est pas forcément générationnel non plus, je suis d'accord. quand c'est plus en termes de dialogue, ou c'est juste que, bah, par exemple, Stonebridge Blues, quand on l'a publié, bah, en fait, il y a plein de vieilles gouines qui ont débarqué et qui ont dit « Ah, oh, on l'attendait depuis tellement longtemps !» et qui ont été hyper enthousiastes du projet, du livre, et qui, pareil, sont, enfin, vieilles gouines en sens âge, hein, pas au sens... non, mais pas au sens des gens qui ont forcément arrêté de militer, qui n'auraient pas existé pendant 30 ans pour tirer, hein. C'est des personnes qui sont toujours actives dans les mouvements. Alors oui, elles ont peut-être qu'elles étaient là déjà dans les années 70, c'est pas pour autant qu'elles sont limitées à cette période-là. Et après, voilà, je sais que plus sur la question du dialogue et des discussions et des conflits qui peuvent exister. Je pense que le deuxième livre qu'on a publié, qui s'appelle Matérialisme Trans, après voilà, Pauline Clochet viendra à Terra Nova début novembre, elle en parlera plus et mieux que moi, mais il y avait aussi cet enjeu de proposer des pistes pour dépasser certains conflits, de revendiquer un héritage féministe matérialiste qui est parfois conçu comme incompatible avec les questions trans. Et nous, il y avait cet enjeu de dire, bah, en fait, on pense que c'est pas incompatible, on pense qu'on peut se placer dans cet héritage et poser ces questions, et de vouloir, pas régler le dialogue, mais en tout cas proposer des pistes pour faire avancer ce dialogue et pas rester dans des positions un peu caricaturales et clivantes qui, en vrai, finalement, font les choux gras d'une minorité de gens qui investissent à fond le conflit, mais qu'en fait il y a plein de personnes qui ont très envie de réfléchir à comment avancer sur ces questions. Et donc je pense qu'il y a un enjeu aussi là-dessus en termes d'héritage et de propositions pour faire honneur à cet héritage tout en pointant là où ça marche pas et là où ça marche, quoi.
Merci, je pense qu'on va devoir conclure. Oui. Alors, pour conclure, j'aimerais te proposer, mais tu peux décliner. Est-ce que tu veux bien lire, enfin, mettre ta voix sur le texte et lire un petit extrait que j'ai trouvé très beau ? Oui. Ok.
Donc, c'est la fin d'un chapitre. Traduire en féministe, c'est apprendre à aimer les femmes, quel que soit le degré de misogynie qu'on ait ingurgité. À nous aimer vraiment, pas de l'amour possession, mais de l'amour puissance. Aimer les femmes pour nos mille façons d'exister et non pour ce qu'elles peuvent nous apporter. Pas de l'amour objectification, mais de l'amour organisation. Les aimer d'un amour sincère, qui laisse une place au désamour, mais pour des raisons qui ne sont ni sexistes, ni racistes, ni classistes. Pas de l'amour fétiche, mais de l'amour composite. Aimer toutes celles qui sont femmes, celles qui le sont trop, comme celles qui ne le sont pas assez. Pas de l'amour isolé, mais de l'amour tissé. Merci.
Sur livre.